la police disperse une manifestation à Pretoria. 30 blessés. La police a dispersé à coups de matraque une manifestation de quelques 2000 syndicalistes jeudi dans le centre de Pretoria, faisant 30 blessés et en arrêtant 30 autres, ont indiqué des témoins. Les manifestants qui protestaient contre le projet de privatisation des entreprises publiques se sont avancés vers la place de l'église, au cœur de la ville, en dépit de l'interdiction qui leur avait été notifiée de manifester dans ce quartier. La police a commencé par faire éclater la manifestation en petits groupes, donnant des coups de matraque à ceux qui refusaient de se disperser. Les manifestants profitaient de tenir un meeting sur la place, puis de marcher vers le siège du gouvernement administratif afin d'y remettre une pétition contre les privatisations, a indiqué un porte-parole du Congrès des syndicats sud-africains, COSATU anti-apartheid. À Johannesburg, environ 3 000 syndicalistes ont défilé sans incident également pour protester contre les projets de privatisation. Deuxième grève générale contre un plan d'austérité économique. La centrale syndicale unique uruguayenne, PIT-CNT, a lancé mercredi un mot d'ordre de grève générale pour vendredi, afin de protester contre un plan d'austérité économique déjà approuvé par le Sénat le jour de son examen par la Chambre des députés. Le PIT-CNT avait convoqué une première grève générale la semaine dernière contre ce plan. Le programme du ministre de l'Économie, Enrique Braga, prévoit une forte réduction des dépenses publiques et une augmentation des impôts indirects afin de ramener le déficit budgétaire de 8% à 2,5% du PNB. Il devrait recevoir vendredi l'aval de la Chambre des députés où le parti Blanco, conservateur au pouvoir, est en mesure de constituer une majorité grâce à l'appui des voix du parti Colorado et de tendance libérale. Le gouvernement de M. Luis Lacalle admet que ce plan aura un coût social élevé et provoquera notamment une baisse des salaires et une poussée du chômage. L'opposition et les syndicats estiment pour leur part qu'il causera également une hausse de l'inflation qui atteint déjà presque 100% en rythme annuel. M. Braga a annoncé que le gouvernement avait élaboré, pour contrebalancer les effets des mesures prévues, un plan social destiné à nourrir quelques 120 000 familles, soit le cinquième de la population, qui sera financé par des dons extérieurs. Lech Walesa, les gouvernements doivent reconnaître le droit à l'autodétermination de la Lituanie. Lech Walesa a demandé jeudi à l'opinion publique mondiale de faire pression sur leur gouvernement pour qu'ils se prononcent en faveur du droit à l'autodétermination des Lituaniens et a invité les nations à agir comme des hommes lors de sa conférence de presse hebdomadaire à Gdańsk. Le prix Nobel de la paix a déclaré que personne ne peut violer le droit à l'autodétermination des peuples. Même s'il est le premier ministre ou président, il doit respecter les autres nations, a-t-il dit dans une allusion claire au président soviétique Mikhail Gorbatchev. Tous les pays, et toutes les nations doivent avoir le droit de décider de leur sort. Je suis inquiet de ce que fait le monde. Les uns regardent les autres, attendent que quelqu'un dise quelque chose. Il y a des moments difficiles, compliqués, où il faut agir comme des hommes, a souligné le président de Solidarité. Le gouvernement polonais, rappelle-t-on, a adopté une attitude prudente dans le conflit entre Vilnius et Moscou, déclarant sa sympathie pour les Lituaniens, mais se refusant à reconnaître l'indépendance de ce pays balte voisin de la Pologne. Polémique sur un incident dans la nuit de mercredi à jeudi près de Vilnius. Le vice-ministre lituanien de l'Intérieur, le lieutenant-colonel Vaclovas Zabarauskas, a tenu une conférence de presse surprise jeudi après-midi au Parlement à Vilnius pour prévenir les journalistes occidentaux que Moscou tenterait de faire croire qu'une attaque avait été lancée dans la nuit de mercredi à jeudi contre une usine gardée par l'armée. La milice a été saisie jeudi matin par l'armée soviétique d'une plainte pour une attaque par le conducteur d'une voiture blanche contre l'entreprise Banga à Varina, à 80 km de Vilnius, a indiqué le vice-ministre. Selon l'armée, deux coups de feu ont été tirés de la voiture sur le bâtiment. Le concierge aurait noté le numéro d'immatriculation, a-t-il précisé. Nous avons donc retrouvé le propriétaire de la voiture qui dément catégoriquement et nos enquêteurs n'ont trouvé sur le bâtiment aucune trace de coup de feu. De plus, le concierge a parlé aux miliciens d'une voiture rouge et non plus blanche, a poursuivi le lieutenant-colonel Zaba Raiskas, pour qui il s'agit d'une falsification en raison des évidentes contradictions. Aujourd'hui, les journaux locaux publient le témoignage de 19 travailleurs de cette entreprise qui protestent contre la présence de militaires. Il nous paraît évident que les militaires tentent ainsi de montrer que cette entreprise doit être gardée par l'armée, a-t-il conclu. Le vice-ministre a affirmé ne pas savoir quelles marchandises sont gardées dans les entrepôts de cette entreprise, mais il pense qu'il s'agit d'équipements militaires. Important remaniement à la tête des forces armées philippines. Le commandement des forces armées philippines va être profondément remanié samedi, avec le départ à la retraite de 13 généraux, apprend-on vendredi de sous-officiels. Ce remaniement, qui élève le général Rodolfo Biasson au poste de chef d'état-major adjoint des forces armées, survient 4 mois après l'échec d'une rébellion militaire contre la présidente Corazon Aquino. Ce mouvement est toutefois habituel chaque 1er avril. Les postes de commandement les plus importants des forces armées philippines étant détenus pour les périodes n'excédant que rarement 3 ans. Le général Biasson, qui a joué un rôle crucial dans l'écrasement de la dernière rébellion, devrait succéder dès le début de l'an prochain au poste très politique de chef d'état-major des forces armées, au général Renato de Villa, 54 ans, qui atteindra alors la limite de service. Le général Biasson conserve en attendant le poste clé de gouverneur de la région militaire de Manille. Le général César Nazareno devient chef de la gendarmerie, l'arme la plus nombreuse qui participe quotidiennement à la lutte contre la guérilla communiste. Son prédécesseur, le général Ramon Montano, est cité pour devenir le chef d'une future police à nouveau indépendante de la gendarmerie. Le régime dictatorial du président Marcos avait militarisé la police. Le général Guillermo Flores devient chef de l'armée de terre, pendant que les chefs de l'armée de l'air, de la marine et des 5 grandes régions militaires sont également changés. Selon la constitution philippine, les choix de ces officiers devront être ratifiés par le Congrès. Ces départs surviennent alors que nombre d'observateurs locaux et étrangers continuent de percevoir la situation interne comme instable. Le général Biasson vient lui-même de reconnaître que des rébellions limitées restaient possibles. Et bien que les généraux fidèles à la présidente Aquino jugent improbable le renouvellement des événements de décembre à court terme. Si une demi-douzaine d'officiers rebelles importants ont été arrêtés, 3 des chefs de la mutinerie, dont l'ex-colonel Gregorio Onassan, sont toujours en fuite. Deuxième lecture, la police disperse une manifestation à Pretoria, 30 blessés. La police a dispersé à coups de matraque une manifestation de quelques 2000 syndicalistes jeudi dans le centre de Pretoria, faisant 30 blessés et en arrêtant 30 autres, ont indiqué des témoins. Les manifestants, qui protestaient contre le projet de privatisation des entreprises publiques, se sont avancés vers la place de l'église, au cœur de la ville, en dépit de l'interdiction qui leur avait été notifiée de manifester dans ce quartier. La police a commencé par faire éclater la manifestation en petits groupes, donnant des coups de matraque à ceux qui refusaient de se disperser. Les manifestants projetaient de tenir un meeting sur la place, puis de marcher vers le siège du gouvernement administratif afin d'y remettre une pétition contre les privatisations, a indiqué un porte-parole du Congrès des syndicats sud-africains. À Johannesburg, environ 3 000 syndicalistes ont défilé sans incident, également pour protester contre les projets de privatisation. Polémique sur un incident dans la nuit de mercredi à jeudi près de Vilnius. Le vice-ministre lituanien de l'Intérieur, le lieutenant-colonel Vaclovas Zabarauskas, a tenu une conférence de presse surprise jeudi après-midi au Parlement à Vilnius pour prévenir les journalistes occidentaux que Moscou tenterait de faire croire qu'une attaque avait été lancée dans la nuit de mercredi à jeudi contre une usine gardée par l'armée. La milice a été saisie jeudi matin par l'armée soviétique d'une plainte pour une attaque par le conducteur d'une voiture blanche contre l'entreprise Banga à Varina, à 80 km de Vilnius, a indiqué le vice-ministre. Selon l'armée, deux coups de feu ont été tirés de la voiture sur le bâtiment. Le concierge aurait noté le numéro d'immatriculation, a-t-il précisé. Nous avons donc retrouvé le propriétaire de la voiture qui dément catégoriquement et nos enquêteurs n'ont trouvé sur le bâtiment aucune trace de coup de feu. De plus, le concierge a parlé aux miliciens d'une voiture rouge et non plus blanche, a poursuivi le lieutenant-colonel Zabaraiskas, pour qui il s'agit d'une falsification en raison des évidentes contradictions. Aujourd'hui, les journaux locaux publient le témoignage de 19 travailleurs de cette entreprise qui protestent contre la présence de militaires. Il nous paraît évident que les militaires tentent ainsi de montrer que cette entreprise doit être gardée par l'armée, a-t-il conclu. Le vice-ministre a affirmé ne pas savoir quelles marchandises sont gardées dans les entrepôts de cette entreprise, mais il pense qu'il s'agit d'équipements militaires. Lech Walesa, les gouvernements doivent reconnaître le droit à l'autodétermination de la Lituanie. Lech Walesa a demandé jeudi à l'opinion publique mondiale de faire pression sur leur gouvernement pour qu'ils se prononcent en faveur du droit à l'autodétermination des Lituaniens et a invité les nations à agir comme des hommes lors de sa conférence de presse hebdomadaire à Gdansk. Le prix Nobel de la paix a déclaré que personne ne peut violer le droit à l'autodétermination des peuples. Même s'il est premier ministre ou président, il doit respecter les autres nations, a-t-il dit dans une allusion claire au président soviétique Mikhail Gorbatchev. Tous les pays et toutes les nations doivent avoir le droit de décider de leur sort. Je suis inquiet de ce que fait le monde. Les uns regardent les autres, attendent que quelqu'un dise quelque chose. Il y a des moments difficiles, compliqués, où il faut agir comme des hommes, a souligné le président de Solidarité. Le gouvernement polonais, rappelle-t-on, a adopté une attitude prudente dans le conflit entre Vilnius et Moscou, déclarant sa sympathie pour les Lituaniens, mais se refusant à reconnaître l'indépendance de ce pays balte, voisin de la Pologne. Deuxième grève générale contre un plan d'austérité économique. La centrale syndicale unique uruguayenne PITCNT a lancé mercredi un mot d'ordre de grève générale pour vendredi, afin de protester contre un plan d'austérité économique déjà approuvé par le Sénat le jour de son examen par la Chambre des députés. Le PITCNT avait convoqué une première grève générale la semaine dernière contre ce plan. Le programme du ministre de l'Économie, Enrique Braga, prévoit une forte réduction des dépenses publiques et une augmentation des impôts indirects afin de ramener le déficit budgétaire de 8% à 2,5% du PNB. Il devrait recevoir vendredi l'aval de la Chambre des députés où le parti Blanco, conservateur au pouvoir, est en mesure de constituer une majorité grâce à l'appoint des voix du parti Colorado de tendance libérale. Le gouvernement de M. Luis Lacalle admet que ce plan aura un coût social élevé et provoquera notamment une baisse des salaires et une poussée du chômage. L'opposition et les syndicats estiment pour leur part qu'il causera également une hausse de l'inflation qui atteint déjà presque 100% en rythme annuel. M. Braga a annoncé que le gouvernement avait élaboré, pour contrebalancer les effets des mesures prévues, un plan social destiné à nourrir quelques 120 000 familles, soit le cinquième de la population qui sera financé par des dons extérieurs. Important remaniement à la tête des forces armées philippines. Le commandement des forces armées philippines va être probablement remanié samedi avec le départ à la retraite de 13 généraux, apprend-on vendredi de sous-officiels. Ce remaniement qui élève le général Rodolfo Biasson au poste de chef d'état-major adjoint des forces armées survient 4 mois après l'échec d'une rébellion militaire contre la présidente Corazon Aquino. Ce mouvement est toutefois habituel. Chaque 1er avril, les postes de commandement les plus importants des forces armées philippines étant détenus pour des périodes n'excédant que rarement 3 ans. Le général Biasson, qui a joué un rôle crucial dans l'écrasement de la dernière rébellion, devrait succéder dès le début de l'an prochain au poste très politique de chef d'état-major des forces armées au général Renato de Villa, 54 ans, qui atteindra alors la limite de service. Le général Biasson conserve en attendant le poste clé de gouverneur de la région militaire de Baniya. Le général César Nassareno devient chef de la gendarmerie, l'arme la plus nombreuse qui participe quotidiennement à la lutte contre la guérilla communiste. Son prédécesseur, le général Ramón Montano, est cité pour devenir le chef d'une future police à nouveau indépendante de la gendarmerie. Le régime dictatorial du président Marcos avait militarisé la police. Le général Guillermo Flores devient chef de l'armée de terre, pendant que les chefs de l'armée de l'air, de la marine et des cinq grandes régions militaires sont également changés. Selon la constitution philippine, les choix de ces officiers devront être ratifiés par le Congrès. Ces départs surviennent alors que nombre d'observateurs locaux et étrangers continuent de percevoir la situation interne comme instable. Le général Biasson vient lui-même de reconnaître que des rébellions limitées restaient possibles, bien que les généraux fidèles à la présidente Aquino jugent improbable le renouvellement des événements de décembre à court terme. Si une demi-douzaine d'officiers rebelles importants ont été arrêtés, trois des chefs de la mutinerie, dont l'ex-colonel Gregorio Onassan, sont toujours en fuite. La moitié de la prison de Manchester est encore aux mains de 119 mutins selon le ministère de l'Intérieur. Un total de 119 mutins continuaient de contrôler la moitié des bâtiments de la prison de Strangeways à Manchester, nord-ouest de l'Angleterre, lundi à 14h30, soit 13h30 GMT, plus de 24 heures après le déclenchement de la révolte, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Ces irréductibles sont retranchés dans 5 des 10 ailes de l'établissement pénitentiaire, a précisé un porte-parole du ministère. Les importantes forces de l'ordre qui encerclent la prison ne paraissaient toujours pas décidées à intervenir en milieu d'après-midi pour mater le dernier carré de mutins. Selon le porte-parole, 1458 détenus qui se sont rendus aux autorités depuis le début des incidents dimanche matin ont été transférés dans d'autres prisons du pays. 69 autres attendent leur prochain transfèrement. Le ministère de l'Intérieur se refusait toujours à confirmer des informations émanant des services de secours et de prisonniers selon lesquelles 3 à 12 détenus auraient été tués pendant la mutinerie, victimes de règlement de compte. 12 gardiens et 37 prisonniers ont été blessés au cours des incidents selon le dernier bilan des autorités. Selon des témoignages de pompiers et d'infirmières non confirmés, plusieurs détenus de l'aile spéciale réservée aux criminels sexuels auraient été battus, pendus et châtrés au cours d'une véritable orgie de violence. Certains mutins auraient agi sous l'effet de la morphine et d'autres drogues après avoir dévalisé les armoires à pharmacie de l'infirmerie de la prison, rapportent ces mêmes témoins. Bush, les programmes de télévision Marty vers Cuba et des radios américaines vers l'Europe de l'Est continueront. Le président George Bush, affirmant que la voie de la liberté ne sera pas réduite au silence, a assuré lundi que les États-Unis poursuivraient leur programme de télévision Marty vers Cuba ainsi que leurs émissions radio en direction de l'Europe de l'Est, tant que les changements démocratiques dans ces pays ne seront pas définitifs. Je suis déterminé à faire en sorte que l'Amérique continue d'être le témoin de la liberté. L'Amérique ne doit jamais perdre sa voix, a déclaré Bush à Atlanta devant la National Association of Broadcasters, qui regroupe la majorité des stations de radio et des chaînes de télévision des États-Unis. Les Américains ont toujours soutenu la liberté d'expression et le feront toujours, a-t-il dit, appelant les professionnels de la radio et de la télévision à soutenir Télévision Marty, chaîne financée par le gouvernement américain et dont les premiers programmes sont diffusés sur Cuba depuis le 27 mars. Ces programmes ont entraîné une guerre des ondes entre les États-Unis et Cuba qui a immédiatement brouillé les émissions, les autorités cubaines considérant qu'elles violent le droit international. La NABI a critiqué Télévision Marty, craignant que le gouvernement cubain ne perturbe les programmes américains en rétorsion, comme il a menacé de le faire. Saisi de plus de 50 kg de cocaïne. Plus de 50 kg de cocaïne d'une valeur marchande de 4 milliards de pesetas, 36 millions de dollars, ont été saisis mercredi dernier à Madrid, a annoncé lundi un communiqué de la police.
Deux Espagnols et une Italienne, Maria Tambourou, ont été arrêtés lors de l'opération qui s'est déroulée en plein centre de Madrid. Dans une première information, la police avait fait état de l'arrestation de trois Espagnols. La drogue d'origine colombienne a été découverte dans deux valises à l'intérieur du coffre d'une voiture, a-t-on précisé de même source. Plus de 700 kilos de cocaïne ont été saisis en Espagne depuis le début de cette année, ajoute le communiqué sans plus de détails. Unification monétaire, la Bundesbank justifie sa position. La Bundesbank a justifié lundi sa position de procéder au remplacement des marques S en marques Ouest au taux de 1 pour 1, en expliquant que cette parité permettrait d'assurer la compétitivité de l'économie est-allemande face à la concurrence internationale. Cette proposition de la Banque centrale ouest-allemande avait été rendue publique au cours du week-end. Sa publication à la suite d'une indiscrétion a soulevé un tollé. Le chancelier Helmut Kohl ayant donné l'impression d'être favorable au taux de 1 contre 1, plus avantageux pour les Allemands de l'Est. Pour la Bundesbank, un tel taux de change ne serait pas tenable pour la plupart des entreprises est-allemandes, car il signifierait un endettement et des coûts de fonctionnement trop élevés. L'État est-allemand aurait en outre du mal à assurer le service de sa dette si celle-ci devait être remboursée en Deutsche Mark au taux fort de 1 contre 1. L'évolution de l'endettement est-allemand doit dès aujourd'hui être considérée comme très critique, poursuit la Banque centrale. Pour elle, un échange à parité des liquidités et des sommes détenues sur des comptes d'épargne serait exagéré, parce que aujourd'hui, un mark de la RDA n'a pas la valeur d'un Deutsche Mark. Avec le taux plus réaliste de 2 marks S contre 1 Deutsche Mark, les épargnants est-allemands bénéficieront d'une énorme appréciation réelle de leur avoir, puisqu'ils auront plus de pouvoir d'achat en Deutsche Mark qu'ils n'en avaient auparavant en Mark Est, argumente la Bundesbank. Le frère du dictateur n'est plus que l'ombre de lui-même. Le général Nicolae Andruta Ceausescu, 66 ans, frère du dictateur qui lui ressemble physiquement d'une manière frappante, est apparu lundi fatigué et éprouvé en comparaissant devant le tribunal militaire de Bucarest, a constaté l'AFP. L'ancien commandant de l'école des officiers de la Securitate de Baniasa est accusé d'instigation au génocide pour avoir ordonné à ses hommes d'ouvrir le feu sur les manifestants le 21 décembre, de crimes aggravés pour avoir tué de sa main 7 personnes, de tentatives de meurtre contre une autre personne et d'infractions à législation sur la détention d'armes et de munitions pour avoir conservé à son domicile un lot de 695 cartouches de 5,56 mm de provenance illicite. Mais il n'avait lundi matin plus rien du fauve qui s'est rué l'arme au poing sur la foule, selon les témoignages recueillis par le procureur sur ces événements et cités par le président du tribunal, le colonel Igon Dima. Petit de taille, le général avait troqué son uniforme pour une tenue de bagnard, mais n'avait pas le crâne rasé. La justice militaire roumaine, qui a imposé ce traitement aux accusés des premiers procès du régime Ceausescu, à Timișoara et Bucarest, s'est souvenu qu'un prévenu n'est pas encore un condamné, commentait un spectateur. Nicolae Andruta a semblé étonné d'entendre le très long acte d'accusation, comme il a semblé étonné de voir un ancien collègue, officier de police, se lever pour pointer un doigt accusateur vers lui, en tant que partie civile. Ce dernier est le père d'une jeune femme abattue le 21 décembre. La moitié de la prison de Manchester est encore aux mains de 119 mutins, selon le ministère de l'Intérieur. Un total de 119 mutins continuent de contrôler la moitié des bâtiments de la prison de Strangeways à Manchester, nord-ouest de l'Angleterre, lundi à 14h30, soit 13h30 GMT, plus de 24 heures après le déclenchement de la révolte, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Les irréductibles sont retranchés dans 5 des 10 ailes de l'établissement pénitentiaire, a précisé un porte-parole du ministère. Les importantes forces de l'ordre qui encerclent la prison ne paraissaient toujours pas décidées à intervenir en milieu d'après-midi pour mater le dernier carré de mutins. Selon le porte-parole, 1458 détenus qui se sont rendus aux autorités depuis le début des incidents dimanche matin ont été transférés dans d'autres prisons du pays. 69 autres attendent leur prochain transfèrement. Le ministère de l'Intérieur se refusait toujours à confirmer des informations émanant des services de secours et de prisonniers, selon lesquels 3 à 12 détenus auraient été tués pendant la mutinerie, victimes du règlement de compte. 12 gardiens et 37 prisonniers ont été blessés au cours des incidents, selon le dernier bilan des autorités. Selon les témoignages de pompiers et d'infirmières non confirmés, plusieurs détenus de l'aile spéciale réservée aux criminels sexuels auraient été abattus, pendus et châtrés au cours d'une véritable orgie de violence. Certains mutins auraient agi sous l'effet de la morphine et d'autres drogues après avoir dévalisé les armoires à pharmacie de l'infirmerie de la prison, rapportent ces mêmes témoins. Bush, les programmes de télévision Marti vers Cuba et des radios américaines vers l'Europe de l'Est continueront. Le président George Bush, affirmant que la voie de la liberté ne sera pas réduite au silence, a assuré lundi que les États-Unis poursuivraient leur programme de télévision Marti vers Cuba ainsi que leurs émissions radio en direction de l'Europe de l'Est tant que les changements démocratiques dans ces pays ne seront pas définitifs. Je suis déterminé à faire en sorte que l'Amérique continue d'être le témoin de la liberté. L'Amérique ne doit jamais perdre sa voix, a déclaré Bush à Atlanta devant la National Association of Broadcasters, qui regroupe la majorité des stations de radio et des chaînes de télévision des États-Unis. Les Américains ont toujours soutenu la liberté d'expression et le feront toujours, a-t-il dit, appelant les professionnels de la radio et de la télévision à soutenir Télévision Marti, chaîne financée par le gouvernement américain et dont les premiers programmes sont diffusés sur Cuba depuis le 27 mars. Ces programmes ont entraîné une guerre des ondes entre les États-Unis et Cuba qui a immédiatement brouillé les émissions, les autorités cubaines considérant qu'elles violent le droit international. La NAB a critiqué Télévision Marti, craignant que le gouvernement cubain ne perturbe les émissions, les programmes américains en rétorsion comme il a menacé de le faire. Saisie de plus de 50 kg de cocaïne. Plus de 50 kg de cocaïne d'une valeur marchande de 4 milliards de pesetas, soit 36 millions de dollars, ont été saisis mercredi dernier à Madrid, a annoncé lundi un communiqué de la police. Deux Espagnols et une Italienne, Maria Tambou, ont été arrêtés lors de l'opération qui s'est déroulée en plein centre de Madrid. Dans une première information, la police avait fait état de l'arrestation de 3 Espagnols. La drogue d'origine colombienne a été découverte dans 2 valises à l'intérieur du coffre d'une voiture, a-t-on précisé de même source. Plus de 700 kilos de cocaïne ont été saisis en Espagne depuis le début de cette année, ajoute le communiqué sans plus de détails. Le frère du dictateur n'est plus que l'ombre de lui-même. Le général Nicolae Andruta Ceaușescu, 66 ans, frère du dictateur qui lui ressemble physiquement d'une manière frappante, est apparu lundi fatigué et éprouvé en comparaissant devant le tribunal militaire de Bucarest, a constaté l'AFP. L'ancien commandant de l'école des officiers de la Securitate de Baneasa est accusé d'instigation au génocide pour avoir ordonné à ses hommes d'ouvrir le feu sur les manifestants le 21 décembre, de crimes aggravés pour avoir tué de sa main 7 personnes, de tentatives de meurtre contre une autre personne et d'infraction à la législation sur la détention d'armes et de munitions pour avoir conservé à son domicile un lot de 695 cartouches de 5.56 mm de provenance illicite. Mais il n'avait lundi matin plus rien du fauve qui s'est rué l'arme au poing sur la foule, selon les témoignages recueillis par le procureur et sur ces événements, est cité par le président du tribunal, le colonel Igon Dima. Petit de taille, le général avait troqué son uniforme pour une tenue de bagnard, mais n'avait pas le crâne rasé. La justice militaire roumaine, qui a imposé ce traitement aux accusés des premiers procès du régime Ceaușescu, à Timișoara et Bucarest, s'est souvenue qu'un prévenu n'est pas encore un condamné, commentait un spectateur. Nicolae Andruta a semblé étonné d'entendre le très long acte d'accusation, comme il a semblé étonné de voir un ancien collègue, officier de police, se lever pour pointer un doigt accusateur vers lui en tant que partie civile. Ce dernier est le père d'une jeune femme abattue le 21 décembre. Unification monétaire, la Bundesbank justifie sa position. La Bundesbank a justifié lundi sa position de procéder au remplacement des marques Est en marques Ouest au taux de 2 pour 1 en expliquant que cette, pari- en expliquant que cette parité permettrait d'assurer la compétitivité de l'économie est-allemande face à la concurrence internationale. Cette proposition de la Banque centrale ouest-allemande avait été rendue publique au cours du week-end. Sa publication à la suite d'une indiscrétion a soulevé un tollé, le chancelier Helmut Kohl ayant donné l'impression d'être favorable au taux de 1 contre 1, plus avantageux pour les Allemands de l'Est. Pour la Bundesbank, un tel taux de change ne serait pas tenable pour la plupart des entreprises est-allemandes, car il signifierait un endettement et des coûts de fonctionnement trop élevés. L'État est-allemand aurait en outre du mal à assurer le service de sa dette si celle-ci devait être remboursée en Deutsche Mark au taux fort de 1 contre 1. L'évolution de l'endettement est-allemand doit dès aujourd'hui être considérée comme très critique, poursuit la Banque centrale. Pour elle, un échange à parité des liquidités et des sommes détenues sur des comptes d'épargne serait exagéré, parce qu'aujourd'hui, un mark de la RDA n'a pas la valeur de Deutsche Mark. Avec le taux plus réaliste de 2 marques S contre 1 Deutsche Mark, les épargnants est-allemands bénéficieront d'une énorme appréciation réelle de leurs avoirs, puisqu'ils auront plus de pouvoir d'achat en Deutsche Mark qu'ils n'en avaient auparavant en marque Est, argumente la Bundesbank.